BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
À vos côtés jusqu'à 18h, séance très très compliquée en Europe et notamment sur le CAC 40. La France reste vraiment dans le viseur des marchés. On a un 10 ans français aujourd'hui qui se tend alors que le 10 ans allemand se détend. On a 75 points d'écart de taux à l'instant, 75 entre la France et l'Allemagne. On était monté à 80 tout à l'heure sur un nouveau plus haut depuis 2017. On va en parler avec nos experts et ça plombe le CAC 40. Il recule aujourd'hui notre CAC de 2,4%. Étienne Brack va nous accompagner tout au long de l'après-midi depuis la tour Euronext. C'est l'une des pires séances en deux ans d'ailleurs pour le CAC 40, l'une des pires semaines même. On fera le bilan et on essaiera d'anticiper la suite. Et la France reste vraiment, vraiment dans le collimateur des marchés 5 jours après l'annonce de la dissolution. Mais d'abord, l'ouverture à Wall Street en direct. Il est un peu plus de 9h30 à New York, 15h30 ici à Paris. Wall Street donc qui se réveille du mauvais pied. Ah, ça change après les records d'hier. John Plassard est avec nous depuis ses bureaux de Mirabeau. Bonjour John.
Bonjour
Étienne. Donc Étienne nous accompagne depuis la tour Euronext. Bonjour Étienne, comment ça se passe aujourd'hui à Wall Street?
Bonjour à tous. Eh bien, en effet, c'est une séance de pause. Pour une fois, il n'y a pas de record à l'ouverture pour le Nasdaq et le S&P 500. Après avoir touché des plus hauts hier soir, le S&P cède 0,3%, 5 413 points, quand le Nasdaq de son côté perd 0,3% à 17 602 points, quand le Dow Jones perd de son côté également 0,3%. C'est le tarif du jour sur les trois indices américains, avec notamment aujourd'hui à souligner un 10 ans américain qui se stabilise à 82, quelques prises de bénéfices après quand même 4 séances dans le vert hein, pour les deux grands indices américains. À noter que vous avez une séance néanmoins qui ne met pas en cause hein, très belle performance sur la semaine, hein, puisque pour l'instant vous avez un indice Nasdaq qui gagne quasiment 2,5% sur l'ensemble de la semaine, un indice S&P 500 qui gagne plus d'1% sur l'ensemble de la semaine. À noter le dollar qui continue de se renforcer face à l'euro et face à bon nombre de devises, hein, typiquement l'euro-dollar qui est sur un plus bas d'un mois et demi à 1,0675. Sur l'ensemble de la semaine, il perd plus d'1% l'euro-dollar. Le pétrole qui continue de grimper très légèrement, plus 0,6% pour le Brent à 83,78$ pour un baril de WTI. Et donc Wall Street qui ouvre en légère baisse aujourd'hui avec notamment des prises de bénéfices sur Nvidia qui perd 0,4% quand Apple est toujours la première capitalisation mondiale. La valeur est même sur un record historique aujourd'hui à l'ouverture à $214.
John, on a un chiffre intéressant aujourd'hui, les prix à l'import aux États-Unis.
Oui, tout à fait, très intéressant parce que vous avez les prix à l'importation qui ont baissé de 0,4% par rapport au mois précédent en mai. C'est la première baisse des prix de l'année et donc on se souvient qu'en avril, on avait eu une hausse de 0,9%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on importe plutôt de la déflation et pas de l'inflation. Donc c'est une très bonne nouvelle. Il faut rappeler ici que durant cette semaine, on a eu les prix à la production qui ont baissé et on a eu l'inflation, le fameux CPI qui a aussi baissé aux États-Unis. Donc, en tout cas, en termes d'inflation, eh bien, cette semaine est la semaine Goldilocks, les boucles d'or pour l'inflation américaine. Ça va dans le sens de la Fed, mais bien évidemment, les investisseurs se focalisent sur d'autres points et notamment ce qui se passe en Europe et bien évidemment sur l'intelligence artificielle.
Ah voilà le mot magique, l'IA, l'intelligence artificielle, parce qu'on a une nouvelle publication portée par l'IA aujourd'hui, Étienne, aux États-Unis.
En effet, il n'y a pas une journée sans qu'on parle d'intelligence artificielle avec Broadcom, avec Apple en début de semaine. Et donc aujourd'hui, en effet, Adobe qui gagne 16%, rendez-vous compte, c'est pas une petite valeur, hein, c'est plus de 200 milliards de capitalisation boursière. Adobe, spécialiste du logiciel, qui revoit la hausse ses prévisions, John.
Oui, tout à fait. On rappelle quand même qu'Adobe, c'est le fabricant de Photoshop, hein, pour ceux qui l'utilisent. Et Adobe a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2024. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est juste à la marge, hein, parce que la société s'attend désormais à un chiffre d'affaires compris entre 21,40 et 21,50 $ contre 21,30 et 21,50. Alors, ce qui est intéressant de noter dans le message d'Adobe et ce qui explique la hausse aujourd'hui, c'est que les perspectives de l'entreprise montrent que les efforts en matière d'intelligence artificielle portent leurs fruits parce que vous avez les clients qui augmentent leurs dépenses en logiciels tels que Premiere Pro, Animate, After Effects, je ne sais pas si vous connaissez ça, Étienne, et ils sont utilisés par les professionnels de la création dans divers domaines. Donc, c'est des perspectives qui sont très, très intéressantes.
Et donc ce titre Adobe qui s'envole décidément, l'IA, c'est acquis tout double, mais quand ça monte pas qu'à moitié, plus de 15% de hausse aujourd'hui pour ce titre Adobe. Dans un instant, on viendra sur la pression des marchés sur la France, le 10 ans français qui se tend contrairement au 10 ans allemand, et cet écart de taux qui a atteint tout à l'heure les 80 points de base entre la France et l'Allemagne. Et ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le secteur bancaire, par exemple, qui recule. On a en lanterne rouge du jour, une valeur de défense, figurez-vous, Thalès perd 6%. On va en parler, nos experts sont mobilisés. Igor Demac sera avec nous dans quelques minutes. On lui demandera si, compte tenu de la volatilité de la dette française, celle-ci reste aujourd'hui investissable. Igor Demac à suivre, ce sera dans la Bourse Cash dans à peine 3-4 minutes. Auparavant, un mot de politique internationale, justement, mais à une toute autre échelle. On va parler du G7 qui se poursuit dans les Pouilles en Italie. Les membres, John, les membres du G7 en route pour un accord sur l'Ukraine, mais sous les sourires, on sent alors des divisions, je ne sais pas, mais en tout cas les pressions. Comment est-ce qu'il faut interpréter rapport de force sur l'Ukraine au sein de ce G7?
Bah écoutez, ce qui est absolument extraordinaire dans le sens littéral du terme, c'est lorsque vous voyez la photo des 7 membres du G7, eh bien, dans un an, la photo pourrait être totalement différente. Si vous regardez, d'un côté, on a Rishi Sunak, le Premier ministre anglais. Vous avez des élections dans 3 semaines, il devrait sortir. D'un autre côté, vous avez Emmanuel Macron qui potentiellement va devoir cohabiter. L'autre côté, vous avez le chancelier Olaf Scholz qui, dont le parti a connu sa pire note lors de les élections présidentielles européennes. Vous avez Biden qui rentre en campagne et qu'il y aura des élections en novembre. Vous avez le Premier ministre japonais Kishida qui, selon les rumeurs, pourrait partir en automne. Et finalement, eh bien, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, après 8 ans au pouvoir, eh bien, il pourrait aussi y avoir des élections en fin d'année. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que pour les gens qui se focalisent seulement sur les actions européennes et les élections européennes, eh bien, on voit que quasiment tous les membres du G7 peuvent perdre leur place et que l'année prochaine, au même moment, on pourrait avoir une photo totalement différente.
Et qui représentera, qui dirigera les États-Unis? La question aura sa réponse début novembre, à l'occasion du scrutin américain. On est à 144 jours maintenant de cette présidentielle aux États-Unis. Et John, c'est notre point quotidien justement sur cette campagne. Joe Biden, qui a voulu interdire potentiellement TikTok, eh bien ça met en colère un certain nombre d'électeurs. Il ne faut jamais embêter les TikTokers, ça pourrait lui coûter des points en vue de cette présidentielle.
Oui, tout à fait. C'est une très bonne chose parce que on se souvient qu'en 2020, eh bien, vous aviez des centaines et des milliers de créateurs de TikTok qui s'étaient unis pour servir un seul objectif, c'était faire élire Joe Biden en publiant des vidéos, des textes. Vous aviez des événements qui étaient organisés. Mais, eh bien, 4 ans plus tard, cette coalition qui s'appelait TikTok for Biden s'appelle maintenant Gen Z for Change et n'a toujours pas soutenu la réélection de Joe Biden en affirmant, et c'est une très très grande communauté aux États-Unis, que Biden est en décalage avec les jeunes sur un certain nombre de questions clés. On rappelle, et vous l'avez dit, que bien évidemment, le fait de vouloir interdire TikTok qui pose problème. Et dans les sondages, eh bien, vous avez 67% des utilisateurs de TikTok qui, si l'application devait être annulée purement et simplement aux États-Unis, ne voteraient pas pour Joe Biden. Donc, faire très attention ici pour le président actuel.
Merci beaucoup. John Plassard et ce regard sur la société américaine et l'ouverture des marchés à Wall Street chaque jour dans USA Today. John Plassard nous accompagne depuis ses bureaux de Mirabeau. Merci John, bon week-end. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Et avec plaisir, Étienne aussi nous accompagne depuis la tour Euronext tout au long de l'après-midi. Vous n'hésitez pas, Étienne, à nous interpeller dès que la séance le mérite. Et quelle séance! Alors Wall Street, pour une fois, n'offre pas de nouveaux records à l'ouverture. Pour une fois, Wall Street ouvre en baisse, -0,2 sur le S&P. Mais c'est rien comparé au CAC 40. Notre CAC 40 reste vraiment dans le viseur des marchés. Les obligations françaises, surtout sous pression aujourd'hui. Le CAC 40 recule donc de plus de 2% sur la semaine. Le CAC perd désormais 6%. Le CAC est pour l'instant en train de vivre sa pire semaine depuis mars 2022. C'était à l'époque le moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ben voilà, on est actuellement en train de vivre la pire semaine depuis cette fameuse semaine-là de mars 2022. On va bien sûr en parler tout au long de l'après-midi. Et d'abord tout de suite, 15h41 dans la Bourse Cash. Igor Demac nous rejoint. Bonjour Igor.
Bonjour Guillaume.
Igor Demac, directeur associé de Vital Épargne. Alors que les obligations françaises sont sous forte pression encore aujourd'hui, vous venez rendre justice. Votre verdict est-il clair aujourd'hui?
Toujours, il l'est.
Pour vous, et je découvre votre verdict en même temps que nos auditeurs et téléspectateurs là, pour vous, la dette française est toujours investissable? C'est le message que vous venez faire passer,
oui.
Vous l'assumez?
Après, ça, je l'assume, après ça dépend du prix. Donc, on voit qu'il y a un mouvement de correction de prix. Donc évidemment, elle n'est pas toujours achetable au même prix. Il faut simplement savoir où cette prime de risque va s'arrêter. Mais pour refaire un tout petit peu d'histoire, parce que j'aime bien l'histoire de France, il n'y a eu qu'une seule faillite de l'État français en 1797. Donc ça veut dire quand même que les faillites des États de droit dans les pays occidentaux sont très rares. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais l'occurrence est très rare. Et puis, une dette d'État, finalement, ça me rappelle aussi la première rente perpétuelle créée par François Ier en 1522, gagée sur la signature de l'Hôtel de Ville, c'est que ça ne se rembourse jamais vraiment. Donc, ça se refinance. Toute la question étant de savoir à quel coût. Et là, on voit bien qu'avec l'écart entre la rémunération du taux souverain allemand, donc de l'obligation à 10 ans allemande et de l'obligation à 10 ans française, eh bien, on a une prime de risque qui est attribuée à notre État, mais qui entraîne aussi les autres pays un peu moins bien notés que l'Allemagne.
Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez justement cet écart s'accroître après l'annonce de la dissolution entre l'Allemagne et la France, le 10 ans français à peu près au même niveau que le 10 ans portugais, pas très loin du 10 ans espagnol non plus. Enfin voilà, l'Europe devient clairement, et peut-être définitivement c'est un grand mot, mais plus structurellement un pays d'Europe du Sud là. Enfin, comment est-ce que vous voyez la chose?
Bah là, on est un pays des deux Europes en fait, hein, géographiquement et philosophiquement. Et
mais ouais, mais de moins en moins des deux là sur le marché, de plus en
alors,
plus du Sud.
Il y a eu des cas où l'écart était beaucoup plus important, notamment dans la crise de la zone euro. Le niveau absolu des taux est quand même faible. La BCE a baissé ses taux directeurs. Donc, je veux dire, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est soutenable l'effort de paiement des intérêts et de remboursement de la dette? La réponse est oui. Qu'est-ce que cette prime de risque indique aujourd'hui? C'est d'abord l'incertitude politique, les marchés n'aiment pas. Deuxième sujet, et c'est un sujet qu'on va avoir à traiter après les résultats de l'élection, c'est la crédibilité budgétaire. Ça ne dépend pas forcément du parti qui est élu. On l'a vu, Liz Truss, qui était parti de gouvernement classique anglais, avait un programme non finançable, s'est fait sanctionner. Monsieur Matteo Salvini aussi. Madame Meloni, à l'inverse, elle a plutôt été plébiscitée. Et on voit d'ailleurs les chiffres d'endettement public de l'Italie qui sont très nettement corrigés depuis le Covid, alors que les nôtres sont beaucoup plus, je dirais, sujets à critique, parce que la tendance est très mauvaise. On n'a pas un déficit, on n'a pas un budget, pardon, en excédent depuis 1974.
Ouais, 50 ans.
Donc, c'est ça que les marchés. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, probablement, il y avait une complaisance sur les finances de l'État français avant, que cet événement d'incertitude fait ressurgir le fait qu'on n'a pas réussi à faire des efforts, quelles que soient les mandatures précédentes. Il y a eu des moments où on était quand même plus ou moins mieux parce qu'il y avait plus de croissance, etc. Mais aujourd'hui, c'est ce que ça valorise. Et en fait, vous avez deux étapes. Soit les agences de notation dégradent, soit après, c'est le rôle des marchés financiers. Et pourquoi les marchés financiers sont importants? Parce qu'en fait, ils sont détenteurs de dettes françaises. Ils étaient détenteurs à 70%, ils le sont à 50%, mais c'est quand même eux qui font les prix.
Est-ce que à ce niveau taux, parce qu'effectivement c'est l'écart de taux avec l'Allemagne qui s'accroît, mais bon, le 10 ans français pas non plus à 12%, on est à 3,10.
C'est plutôt le bund 10 ans qui a baissé.
Exactement. Donc l'écart avec l'Allemagne, voilà, de plus en plus le marché dissocie la France et l'Allemagne. Alors ça, c'est peut-être embêtant. Mais est-ce que à 3,10 le 10 ans français, est-ce que le marché reste à vos yeux complaisant encore à ce niveau-là?
En fait, il est complaisant pour la dette d'une manière générale, parce que quand on voit la dette des États-Unis et puis le déficit structurel, nous, on doit être un déficit structurel autour de 4,5-5%. Le déficit américain est plus élevé. Donc, de toute façon, il y a une complaisance pour les endettements publics. À chaque crise, on rajoute, je dirais, entre 15 et 25 points de dette publique. Donc, je ne vais pas dire que le monde des marchés financiers n'est pas complaisant. Sachant que comme on est dans des économies qui sont financées par la dette de consommation, c'est un peu un cercle, entre guillemets, vicieux. Je modulerai mon propos par le fait qu'avec de l'inflation, on réduit aussi le poids de la dette. C'est notamment après les deux grandes guerres. Il faut savoir que la France avait en masse la plus grosse dette publique en 1914 du monde. Donc on est quand même aussi un serial killer en termes d'emprunt. Mais aujourd'hui...
Mais on était une des toutes premières, vraiment toutes premières puissances mondiales aussi à l'époque. C'est un peu moins...
Tout à fait. Alors ce qui accroît beaucoup les dettes... C'est la guerre, ça a toujours été comme ça. Et on ne peut pas dire qu'en ce moment, on est dans une situation très pacifique. Donc tout s'explique. Est-ce qu'on doit mettre des primes plus importantes? Le marché donne la réponse. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que cette incertitude politique, cette dissolution, ça met en place des mécanismes de marché qui sont assez classiques, ce qu'on appelle des macro trades, hein, c'est-à-dire des paris sur les marchés. Donc c'est baisse des actions françaises, baisse des small caps, volatilité sur l'OAT, baisse des banques françaises, baisse de l'euro et refuge vers la qualité, c'est-à-dire l'Allemagne.
Est-ce que vous vous dites que oui, s'il y a une paralysie parlementaire à l'issue de ces législatives, ce qui est probable. Enfin, voilà, on voit pas de majorité.
Les sondages semblent indiquer.
Pour l'instant,
pas de majorité absolue et une majorité relative complexe à organiser.
Ce serait un moindre mal ou ce serait aussi mal qu'une majorité absolue dont le programme économique déplaît au marché ?
Alors, ça, c'est un peu de la politique fiction, mais si rien ne se passe, on l'avait vu en Belgique quand il n'y avait pas eu de gouvernement pendant plus de 300-350 jours, finalement, c'est peut-être un moindre mal parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de dérapage où il n'y aura pas de coup de barre à gauche ou à droite de la politique. Je pense quand même que derrière tout ce stress, il y a un stress ambiant qui est la déconstruction de l'Europe, de la zone monétaire, de l'euro. Donc ça, c'est un scénario qui va trop loin. Mais évidemment, on a donné, et ça fait quand même plusieurs décennies qu'on donne à nos amis anglo-saxons, l'opportunité de nous fragiliser en faisant ce genre de macro-trend sur nos obligations et nos actions.
Alors, on apprend aujourd'hui que la Banque publique de développement reporte l'émission d'un green bond qui était prévu aujourd'hui. Cette émission, elle est reportée. Vous pensez qu'on aura comme ça pas mal de reports d'émissions, d'adjudication
oui,
de la France?
C'est vraiment la meilleure période. Non pas qu'il n'y a pas des acheteurs naturels de dette, puisque de toute façon, il y a plus d'acheteurs de dette que d'actions par construction, parce que les populations vieillissent, ce sont plus acheteurs d'obligations. Mais là, ce n'est pas le bon moment. Au moment de timing, on a des spreads qui s'écartent. Je pense que ça reviendra, entre guillemets, un peu plus dans l'ordre quand on aura une vision un peu plus nette de la coloration de l'Assemblée nationale.
Et il va falloir encore attendre deux petites semaines. Étienne nous appelle depuis la Tour Euronext, la séance en direct. Dans les yeux, le CAC 40, Étienne, on est du coup dans le rouge, très nettement en baisse encore aujourd'hui.
En effet, une baisse plus importante qu'hier, puisque pour l'instant, vous avez un CAC 40 qui perd 2,5%, quasiment sur les plus bas niveaux de la séance, avec un CAC 40 qui met en danger désormais les 7500 points, 7516 points. Et figurez-vous que depuis aujourd'hui, le CAC remet les compteurs à zéro, puisque depuis le 1er janvier, la performance est légèrement négative, moins 0,2% depuis le 1er janvier pour l'indice parisien. À noter des volumes d'échanges qui sont vraiment importants, plus de 3 milliards d'euros négociés dans l'indice à moins de 2 heures du fixing, avec les vendeurs qui ont vraiment la main depuis plusieurs jours. Aux intervenants, vous faites attention de ne pas casser le seuil symbolique des 7770 points depuis qu'il a été franchi. Ça n'en finit plus de baisser et pour l'instant, il n'y a pas de relais à la hausse. C'est beaucoup d'attentisme.
Oui, et en plus, c'est vrai, beaucoup de considérations techniques. Hein, une accélération baissière due à des paliers techniques qui ont été enfoncés. On en parlera avec André Atouigny, il sera avec nous tout à l'heure depuis Saxo Bank. Ce sera aux alentours de 16h30. Étienne nous le disait, on a effacé nos gains là, depuis le début de l'année, désormais sur le CAC 40. Alors, investisseur que vous êtes, Igor, et puis vous êtes au contact des clients qui doivent aussi réagir, est-ce que vous leur dites c'est peut-être un point d'entrée ou on attend?
Oui, ça commence à être des points d'entrée, mais comme il y a encore un volet d'incertitude sur le résultat des élections législatives, sur la constitution de la majorité, sur les programmes budgétaires, il y a aussi des élections américaines. Je vous rappelle que quand on cumule l'âge des deux candidats, c'est 158 ans. Donc, je pense qu'on va avoir des épisodes de volatilité. Alors, on ne le pressentait pas forcément pour les élections européennes, quoique les sondages étaient quand même assez bien ficelés, j'allais dire. Mais il n'y a pas besoin de se presser. De toute façon, nous, on a une stratégie toujours d'acheter par tranche, hein, progressivement sur les marchés. C'est bien l'atout des marchés financiers liquides, c'est que ça baisse. Et quand ça baisse, on peut racheter.
Une question qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs sur les réseaux sociaux, on va vous la soumettre sur notre fil XBFM Bourse aujourd'hui, notre fil LinkedIn. Quelle a été, à vos yeux, la plus grande surprise de la semaine sur les marchés? Est-ce que ce sont les tensions sur l'OAT, la France? Est-ce que c'est Apple qui est redevenu quand même cette semaine et encore aujourd'hui la première capi mondiale? Est-ce que la plus grande surprise, ça a plutôt été la Fed, un peu plus restrictive, mine de rien? Ou l'annonce d'hier soir, Casino qui va revenir dans le SBF 120. Voilà, quatre options, quatre propositions. Pour vous, quelle a été la plus grande surprise?
Je serais mauvaise langue si j'occultais la dissolution plus que les conséquences, puisqu'une fois qu'on fait cette dissolution.
Mais la question, c'est pas le plus grand choc. Hein. La surprise. On n'est pas surpris que l'OAT stand après la dissolution.
Non, on n'est pas surpris. Les quatre éléments que vous mentionnez ne sont pas des surprises. Hein. C'est des macro-trends ou des décisions. Bon, la Fed, ça fait longtemps qu'on sait qu'elle hésite. J'étais plutôt rassuré que la BCE fasse cette baisse de taux et soit la première.
Alors vous tous, vous votez, vous n'hésitez pas à continuer de voter, nous laissez vos arguments en commentaire, on rebondira dessus, notamment à partir de 16h30 avec la famille BFM Bourse. Pour l'instant, la plus grande surprise des votants sur les réseaux, c'est quand même l'OAT qui se tend. À 41%, vous êtes surpris par l'OAT qui se tend, à 28% par le retour de casino dans l'SBF 120, eh oui, 28%. Et puis à 20%, Apple qui redevient la première capitalisation mondiale. En revanche, comme Igor l'a fait, plus restrictive, ça vous surprend absolument pas. Voilà, n'hésitez pas à continuer de voter, donc on continuera de rebondir sur vos votes tout au long de l'émission. Merci beaucoup Igor de nous avoir accompagnés cet après-midi. Vital épargne régulièrement à nos côtés. Et donc à vos yeux, la dette française reste investissable malgré les hauts, les bas et la volatilité actuelle. Effectivement, le 10 ans français qui s'écarte de plus en plus du 10 ans allemand. On est actuellement à l'instant à 76 points d'écart entre les 10 ans français et allemand. On va continuer d'en parler tout au long de l'après-midi. Le CAC 40 perd donc 2,6%.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et si vous avez trouvé Igor bon, d'ailleurs, n'hésitez pas à retrouver le replay dans quelques minutes sur notre application BFM Business. Les actions sont sans doute à long terme le meilleur investissement, enfin si on investit au bon moment. Et on va vous apporter pour cela des clés. Mathieu Berthaud est avec nous, le directeur général de Mon Partenaire Patrimoine. Bonjour Mathieu.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue. Est-ce qu'il existe un meilleur timing, un timing idéal pour investir ?
Ah, c'est une question qu'on peut décliner à l'infini. Hein. Très souvent, les clients demandent est-ce que j'achète pas trop tard quand la bourse monte, donc trop cher. Est-ce que quand ça baisse, je vends pas trop tard, réalise plus de pertes.
C'est une question qui se pose là. On perd 6% cette semaine sur le CAC. On a plein de questions là-dessus. Ouais.
Complètement. Ou alors, est-ce que si je vends trop tôt, je loupe le rebond à la hausse. Bref, ça peut se décliner à l'infini. Et en fait, la vraie question de fond, plutôt que de savoir à quel moment on peut investir, c'est plutôt comment on peut investir. Évidemment, à court terme, le market timing, c'est quelque chose qu'on aimerait tous maîtriser. Acheter bas, revendre haut. Mais sur le long terme, ce qui va vraiment être déterminant, c'est l'exposition. C'est le fait d'être investi à la classe d'actifs sur laquelle on veut créer son moteur de performance. Et il y a une étude qui a été faite il y a quelques temps sur un indice que tout le monde connaît, le MSCI World, donc Action Monde, sur 20 ans. 98-2018, période sur laquelle le MSCI World a fait en annualisé 6,60% de performance avec les dividendes réinvestis. Si on est resté exposé toute la période, si on a loupé seulement les 28 meilleurs jours de bourse, et bien là, cette performance, elle retombe à zéro. 28 jours sur 20 ans. Donc en fait, à vouloir éviter les baisses, on peut surtout manquer les hausses. C'est ça qu'on peut retenir.
Donc la clé, c'est de dire aux auditeurs et téléspectateurs qui voient là le CAC 40 sur la semaine perdre 6%, qui se demandent si c'est le moment là de réinvestir. Vous dites, non, la clé, c'est pas quand investir, mais comment, et de lisser l'investissement. C'est ça l'idée que vous voulez aujourd'hui mettre en avant.
C'est ça. Et on sait que l'investissement est orienté beaucoup par des biais cognitifs ou des biais psychologiques pour éviter de subir ces biais. Le plus efficace, c'est d'avoir un peu cette discipline d'investissement qu'on retrouve quand on met en place un investissement programmé. Et en fait, le plus tôt possible, le fait de mettre en place un investissement programmé sur les actions, une classe d'actifs qui, on le rappelle, sur 40 ans, reste quand même en moyenne annualisée la plus performante, avec des sommes indolores, entre guillemets, ça peut très bien marcher. 50 euros, 100 euros par mois, 200 euros par mois, c'est quelque chose qui fonctionne très bien.
Donc le message, c'est que le bon moment pour investir, c'est le plus tôt possible dans sa vie, quoi, dès qu'on peut.
C'est ça. Ouais. Alors si on est gérant de fonds, trader, évidemment, c'est pas du tout la même chose, mais en fonction de ses objectifs, et quand on est un investisseur particulier, c'est très important, quelle que soit l'enveloppe. Alors là, on parle des actions, mais ça marche aussi sur d'autres types d'enveloppes qui vont permettre un investissement régulier. Le plus tôt, c'est le bon moment, parce qu'on va profiter de l'effet boule de neige de la capitalisation des intérêts, et sur le long terme, ça permet d'aller capter la tendance haussière sur la période, tout en limitant les effets à court terme de forte volatilité. On le voit cette semaine. Alors, depuis le début de l'année, je suis pas sûr qu'il y ait une très grosse différence entre un investissement fractionné et avoir investi au 1er janvier.
Mais il n'y a plus de différence.
On voit que ça a annulé. Voilà, on voit que ça a annulé en termes de performance.
Dommage.
Mais sur le long terme, c'est quelque chose qui est à la fois efficace et surtout accessible à tout le monde. Pas besoin de mobiliser une grosse.
Et vous parlez des intérêts capitalisés. On peut expliquer ce que c'est. Enfin, il y a quelque chose d'exponentiel là-dedans. C'est ça qui est intéressant.
Oui, c'est-à-dire que quand vous avez généré une plus-value, cette plus-value, une fois qu'elle est inscrite sur votre placement, il va générer lui-même des plus-values. Les petits font des petits qui font des petits.
C'est ça. Donc quand on parle d'un rendement moyen par an de 6,6%, C'est à chaque fois sur l'effet cliqué précédent.
Oui, dividende réinvesti sur l'indice et puis avec cet effet de capitalisation.
D'accord.
Je peux prendre un exemple tout simple. Si vous investissez, mettons, 300 euros tous les mois dans votre contrat d'assurance vie pendant 10 ans, avec un rendement de 4% par an, donc qui n'est pas délirant, aujourd'hui c'est ce qu'on constate en moyenne en assurance vie, même avec des supports assez sécurisés, au bout de 10 ans, vous avez 45 000 euros, 300 euros tous les mois, au bout de 10 ans 45 000 euros, dont 9 000 euros générés par ces fameux intérêts, c'est un bon début. Donc ça peut être effectivement applicable pour tout le monde.
Mathieu Berthaud qui rebondit sur l'actualité, ces questions que vous nous envoyez, 6% de baisse sur la semaine sur le CAC, est-ce que c'est le moment de revenir? Il a mieux à vous proposer donc une méthode d'investissement dans la durée. Effectivement, Mathieu Berthaud, mon partenaire patrimoine. Merci beaucoup Mathieu d'être passé nous voir.
Merci Guillaume.
Notre CAC qui n'arrange pas ses affaires aujourd'hui en repli encore de 2,4%. On va en parler, Étienne sera avec nous, puis la Tour Euronext juste après la pause. Et puis cet article sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com, consacré à Casino. Figurez-vous que Casino, même si le groupe est en difficulté, eh bien Casino recapitalisé va désormais pouvoir faire son comeback dans le SBF 120. Oui, c'est possible. L'article est consultable, vous pouvez donc le lire. N'hésitez pas, on va rebondir dessus aussi dans la prochaine heure de BFM Bourse. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.